RMC, cours numéro 1.
Bienvenue sur cours numéro 1 pour ce podcast quotidien de ce Roland 2026. À mes côtés, la brillantissime Sarah Pitkowski qui a mis une jolie robe. Mais Sarah, on pourrait presque être en maillot de bain. Il fait une moiteur ce soir, c'est incroyable. Mais on va en parler de la chaleur. Bonsoir Sarah.
Bonsoir à tous, salut Eric. Ouais, j'ai installé une piscine. Là, on a vécu une journée, je pense que la plus chaude depuis le début de la quinzaine. Mais ce n'est qu'un début.
Incontestablement, et justement, la chaleur, ça va être au centre, évidemment, de notre petite discussion, parce qu'on va attaquer avec le gros morceau, la victoire de Novak Djokovic face à Valentin Royer, 74e mondial, qui a fourni vraiment une excellente opposition aux Serbes. Victoire en 4 manches, 6-3, 6-2, 6-7, 6-3, mais le chiffre, moi, qui m'impressionne, c'est 3h44, Sarah. Ça peut laisser des traces.
Oui, ça va laisser des traces. D'ailleurs, on a vu aussi Djoko qui était parfois à la peine. En fait, c'est que dès que les rallyes sont longs, on sent que ça puise dans les organismes. Ça chauffe aussi le cerveau. Mais avant de revenir sur Djokovic, moi aussi, je voudrais vraiment saluer la prestation de Valentin Royer. On savait qu'il pouvait le tenir dans le rallye de fond de cours, dans la bataille de fond de cours. Mais Djoko, il y a une chose qui s'est faite, il est vicieux, il sait entourlouper l'adversaire, il sait jouer avec le public.
Oui, parce qu'on l'a bien vu pendant la rencontre, quand ça s'est un peu tendu, quand Valentin a commencé à revenir dans la partie, à sortir des jolis points, ça n'a pas plu à Novak Djokovic. Et vous connaissez sa manière de réagir, quand il marque à son tour un beau point, il se met le doigt à l'oreille pour dire « Alors, vous dites rien là ?» Mais la bagarre a été somptueuse, Novak Djokovic était bien content de s'en sortir en 4-7, parce que Valentin a eu une balle de break vraiment en toute fin de match. Et là, il s'est peut-être un peu précipité. C'est peut-être le seul break qu'il a eu. Mais d'ailleurs, on va l'écouter parce que, comme Sarah l'a dit, il mérite d'être dans le cours numéro 1. Donc Valentin Royer, très fier d'avoir quand même livré un match somptueux sur le Châtrier.
Au-delà de la déception, j'ai pris un kiff de dingue en fait, avec cette communion du public qui a été complètement dingue. C'est une première pour moi aussi sur le Châtrier contre une des légendes du tennis, donc ouais, j'étais super, super content de moi sur la manière dont j'ai géré l'événement, en tout cas, parce que j'ai pas forcément stressé ou fait des choses incongrues aujourd'hui, donc j'en suis content.
Alors ce qu'on ignorait, Sarah, c'est qu'ensuite, en conférence de presse, Novak, eh bien, il y a eu une...
Il n'est pas au fait de toutes les règles, en fait. C'est les règles quand ça l'arrange.
Il avait un peu le cerveau encore surchauffé et il a attaqué bille en tête l'organisation en disant « Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de heat rule ». Parce que oui, il faisait 35 degrés aujourd'hui, Sarah. Alors, écoutez donc la saillie, entre guillemets, de Novak Djokovic qui aurait peut-être voulu qu'on interrompe le match ou qu'on déroule le toit, parce que ça se fait parfois dans les autres grands chelems. Novak Djokovic, très virulent.
Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de hit rule ici. Ah bon, il y en a une ? À quoi elle consiste ? Il y a un indice qui mêle différents facteurs. Ok. En Australie, on a eu plusieurs cas où les matchs ont été décalés de 1, 2 ou 3 heures jusqu'à ce que l'indice redescende. En grand chelem, ça ne devrait pas être un problème puisqu'on a plein de cours et l'éclairage. Vous pouvez reprogrammer les matchs. Est-ce l'idéal de jouer après minuit ? Non, j'en conviens, mais certains jours de canicule, ce serait peut-être bien de reconsidérer tout cela.
Oui, Sarah, c'était quand même assez étonnant parce qu'on a découvert effectivement qu'il ne connaissait pas la règle. Il existe une heat rule à Roland-Garros, mais le problème, Sarah, tu connais les autres grands chelems, en Australie, ça peut être très très chaud. On va dire, parfois ça atteint 40 degrés, donc là, ils interrompent les matchs. Ça s'est passé cette année, notamment lors du match entre Yannick Sinner et l'Américain Spizziri. Et à l'US Open, l'autre facteur important, c'est l'humidité. Ici, il n'y a pas d'humidité, Sarah. Et à l'US, il y a souvent des matchs qui se déroulent à la vie et à la mort parce que l'humidité est terrible. C'est l'ennemi numéro un du tennisman.
Oui, parce qu'en fait, cette heat rule, il faut aussi expliquer ce que c'est. C'est un ratio entre la température et l'humidité. Et donc, c'est ce ratio qui, à un certain moment, fait qu'on peut stopper les matchs. Sauf qu'à Paris, il fait chaud, mais très, très sec. Donc, en fait, on ne rentre pas dans la heat rule malgré un... Je pense, sincèrement, on est sur le central, en plein après-midi, en plein soleil, on est au-dessus des 40. Mais il n'y a pas d'humidité. Donc, oui, on comprend son incompréhension. Effectivement, peut-être qu'il faut revoir une heat rule spécifique pour Roland-Garros parce qu'on n'est pas dans un climat humide ici. Cependant, effectivement, les conditions de jeu, elles sont terribles pour tout le monde. Et c'est seulement s'il y a une règle qu'on peut se dire que les autres cours annexes vont s'arrêter et qu'on ferme le toit pour rafraîchir. Mais on ne le ferme pas, comme il le dit très justement, on ne va pas le fermer que pour lui. Il faut que ça soit égalitaire pour tous les autres joueurs. Mais c'est vrai que c'est un facteur cette année qui est très, très, très important dans les résultats des matchs et même les renversements. C'est-à-dire que les joueurs ont du mal à rester sereins et avoir du sang-froid sur tout un match.
J'avoue aussi que j'ai une pensée pour les spectateurs parce qu'on voit beaucoup de tribunes vides parce qu'elles sont en plein soleil. Et c'est absolument pas confortable de s'installer pendant 2-3 heures en plein cagnard. Ça existe aussi en Australie. Et parfois en Australie, c'est vrai qu'ils referment le toit de manière à ce que le plus de spectateurs possible soient à l'ombre.
C'est le cas chez nous. Hein. En fait, pour ceux qui voient les matchs à la télé ou qui sont venus au stade, c'est vrai qu'il y a une partie du toit qui est très avancée. Donc, ce qui fait qu'il y a un arc de cercle du Philippe Châtrier qui est à l'ombre. Pourtant, le court, lui, le rectangle, reste bien au soleil. Donc oui, on l'a, et puis il y a des tribunes qui sont naturellement à l'ombre, mais celles qui sont en plein soleil, on voit bien, les gens ne sont pas assis, on les voit dans les allées, ça monte, ça descend. On ne peut pas rester plus d'une heure en plein soleil. Et d'ailleurs, le service infirmerie, il est mis à rude épreuve. Hein. On voit souvent les pompiers autour du stade. Il y a beaucoup de malaise aussi dans les spectateurs.
Oui, c'est vrai, ils ont rajouté plein de points d'eau pour que les gens se ravitaillent en eau fraîche. D'ailleurs, la chaleur, je pense qu'a fait une victime, entre guillemets, c'est le Tchèque Menchik qui a été évacué par la protection civile parce qu'il a fini sur une balle de match et il s'est allongé par terre. Il était totalement tétanisé par les crampes qui étaient forcément dues à la chaleur. Et donc, il a même été transporté en chaise roulante à l'infirmerie tout près d'une des allées où on fait ce podcast. Ça fait des dégâts, Sarah. Mais voilà, mais c'est les plus forts qui restent debout. Mais on a une pensée pour Mexique parce qu'au prochain tour, il jouera un mec qui est plutôt frais. C'est Alex de Minaur qui avait bénéficié aujourd'hui du forfait de Blocks. Un autre forfait, oui. Pendant qu'on est dans les forfaits. Oui. Valentin Vachereau, l'aventure s'arrête puisqu'il était blessé au pied. Il ne jouera pas jeudi son deuxième tour. Voilà, Sarah, on a expliqué donc ce qui s'est passé aujourd'hui à Roland. Maintenant, on va revenir sur le derby franco-français qui nous intéressait fortement, bien sûr, puisqu'il opposait sur le court Simone Mathieu, Quentin Alice à Hugo Humbert, tête de série 32. Donc sur le papier, Hugo était légèrement favori, mais on sait que la terre, c'est pas son truc. Il est né à Metz, l'hiver, il jouait sur moquette. Et Quentin Alice, j'ai l'impression, Sarah, qu'il a bien préparé son affaire. Il s'est imposé en 3-7. C'est peut-être là la surprise. 6-4, 7-6, 7-6.
Oui, effectivement, c'était une histoire de tactique ce match. Et puis quand il y a deux Français qui se jouent, ils se connaissent aussi. Donc le risque, c'est aussi de changer son jeu de peur que l'autre le connaisse trop. Mais là, en l'occurrence, du côté de Quentin, le match a été extrêmement bien préparé. Déjà parce qu'il n'aime pas jouer les gauchers. Et là, il vient de jouer deux gauchers en deux matchs. Il avait un ratio négatif face aux gauchers. Oui, il avait. J'ai envie de dire que son premier match contre l'Italien l'avait déjà mis dans une bonne tactique. C'est-à-dire qu'il a vraiment changé sa construction. Il a su véritablement varier les hauteurs et les vitesses. Et ça a vraiment gêné Hugo Humbert. Après, Hugo Humbert, c'est aussi c'est assez étonnant au service. Beaucoup de déchets, beaucoup de fautes dans les moments importants. Pourtant, un service de gaucher, ça doit être vraiment une force. Et il a été un peu décevant sur ce côté-là. Mais on ne pensait pas que ça tournerait en 3-7. On pensait que le match irait vraiment au bout du bout. Mais Quentin a su serrer le jeu au bon moment. Et il est encore au troisième tour, comme l'année dernière.
Exactement. Et l'an passé, il avait frôlé l'exploit contre Holger Rune. Il était passé à 2 points de la victoire. Donc maintenant, au prochain tour, il affrontera, puisqu'au moment où on enregistre, le match se déroule sur le Châtrier, il affrontera le vainqueur de Zverev, Marache. En principe, donc, il doit jouer l'Allemand, qui a déjà un set d'avance. Mais pour revenir sur la polémique Djoko, ça vient d'effleurer mon esprit, Sarah. Cette sortie en conférence de presse, elle n'est peut-être pas innocente. C'est-à-dire qu'il est en train de préparer le terrain, parce qu'évidemment, Amélie Mauresmo, dans son bureau, elle a vu la sortie de Novak Djokovic. Et je pense que le résultat de tout ça, c'est que la night session, la prochaine, ce sera pour lui. Et on connaît son adversaire, Sarah. Oui. Ça va être un match somptueux. Fonseca. Ce sera Fonseca qui a battu en 5-7 Prismic avec une remontada. Il a fini le match en larmes, Sarah. Mais Djoko, Fonseca, ça peut faire des étincelles.
Oui, bah c'est surtout un énorme test pour Djokovic. Oui, comme tu dis, cette sortie en conférence de presse, c'est qu'il sème. Tu sais, il sème les petits cailloux. Parce qu'il faut aussi savoir que la journée de vendredi, il va y avoir Zverev. Et Djoko, Zverev est numéro 2 mondial. Djoko est derrière. Donc c'est de bienséance d'aller quand même demander au meilleur joueur, est-ce que tu préfères jouer en night session, est-ce que tu préfères jouer l'après-midi. On va poser la question, mais on pose d'abord la question au meilleur. Et aujourd'hui, c'est Zverev. Donc peut-être que Djoko, malin comme il est, il commence à pousser et à mettre la pression sur la direction du tournoi en disant, attendez, c'est à moi qu'il faut demander d'abord où est-ce, quand est-ce que j'ai envie de jouer sur le châtrier. Après, on peut peut-être l'envoyer aussi sur le Suzanne Lenglen. Hein.
Oui, là, je pense que tu rêves un peu. Le Fonseca contre Djokovic, c'est évidemment une affiche qui mérite le central. Et si c'est Alice Zverev, effectivement...
Ça peut être en quatrième sur le Suzanne Lenglen. Et finalement, tu joues à la tombée de la nuit.
Ouais, bah écoute, on verra, mais je n'y crois guère. On va passer au tableau féminin, Sarah, parce qu'il y a eu une grosse surprise, à savoir l'élimination de la tête de série numéro 2, Elena Rybakina, sortie en 3-7 avec un super tie-break par l'Ukrainienne Staro Dubseva, qu'on avait vu en évidence sur la terre battue de Charleston, où elle avait atteint la finale face à Jessica Pegula. Et donc, elle est parvenue à piéger Rybakina. Moi, je me pose des questions. Rybakina, avec son grand gabarit, je ne suis pas sûr qu'un jour, elle soulève le trophée ici.
Oui, non, c'est sûr que la terre battue, son tennis pur, qui est à plat... Pour l'instant, il s'adapte quand même pas très bien à la terre battue. Reste néanmoins une surprise. Moi, je la connaissais pas du tout, l'Ukrainienne. Hein, je vais être très claire. J'ai vu le match de loin et j'ai été effectivement surprise que même à la fin, elle n'arrive pas à s'imposer. Donc oui, et Rybakina, on la mettait quand même dans le groupe de joueuses à suivre, hein, avec Świątek, avec Coco Gauff, avec Sabalenka. Moi, j'ai une joueuse dans le viseur qu'il faut surveiller.
Laquelle ?
Bah, Elina Svitolina. Je pense qu'elle est animée de quelque chose. De quelque chose qui est de l'ordre de l'irrationnel. Elle peut devenir un petit peu française, tu vois. Et Svitolina, elle a bien maîtrisé son match aujourd'hui. Et moi, je la surveille de près.
Alors aujourd'hui, effectivement, l'Ukrainienne s'est imposée très facilement 6-0, 6-4 contre l'Espagnol Quevedo. Je vous rappelle qu'au premier tour, elle était passée tout près de la catastrophe contre Anna Bondar, qui est une sorte de bête noire. Et en 16e de finale, elle affrontera l'Allemande Korpatsch. Mais c'est vrai que quand on regarde le tableau, on sent venir déjà un Svitolina Bencic en 8e, et pourquoi pas un Svitolina Świątek ou Kochuk, parce qu'on peut avoir un Świątek Kochuk en 8e, et pourquoi pas un quart 100% ukrainien entre Svitolina et Kochuk. Ce serait une formidable histoire pour ces deux joueuses.
Oui, sachant qu'en plus, Svitolina a gagné le tournoi à Rome la semaine dernière. Donc, sur Terre, elle a ses références. Donc, voilà, c'est une joueuse à suivre. En tout cas, le tableau féminin, plus on va avancer, plus il va y avoir des matchs intéressants. Là.
Avec aussi une petite sensation à noter, c'est l'élimination de Jasmine Paolini, qui a déjà fait finale ici. Elle est tracassée par des problèmes au pied. Donc, elle avait déclaré forfait en double avec Sarah Errani. Donc, c'est qu'il y avait un souci. Et là, elle est tombée sur une Argentine, Solana Sierra. Donc, ouais, il y a eu des choses intéressantes hein, dans le tableau féminin. Et on espère maintenant que, et ça nous amène au programme de jeudi, on espère maintenant qu'il y aura des Françaises au rendez-vous du troisième tour. Donc on a eu la programmation. Écoute Sarah, chapeau à la direction du tournoi parce que les deux Françaises joueront sur le central.
Oui, félicitations à la direction du tournoi qui a pris ses responsabilités en offrant le châtrier aux deux Françaises, en espérant que ça les booste. Je pense qu'effectivement, ça risque d'être un petit peu compliqué pour Elsa Jacquemot face à Sabalenka. Mais Diane Paris a beaucoup plus de chance.
Oui, contre la McKinley, ouais.
Voilà, donc, mais c'est nos deux dernières chances françaises. J'espère qu'on va faire un 50% demain.
Alors, l'autre info intéressante, mais là, ça coïncide avec ce qu'on vous raconte depuis le début de ce podcast. Il y a une sorte d'alternance dans la programmation des stars. Et donc, Yannick Sinner, demain, il va mettre beaucoup de crème solaire parce qu'il est programmé à midi sur le central pour affronter un joueur qui, évidemment, à sa portée, hein, surtout quand on a vu son premier tour contre Clément Tabur. Yannick Sinner qui jouera, le gaucher argentin Juan Manuel Cerundolo. Mais l'info, et c'est là qu'on va le surveiller. Oui, c'est le petit vrai. Là, on va voir comment il va gérer la chaleur parce qu'il y avait une alerte rouge, on en a parlé à Melbourne. Il n'aime pas quand il fait très chaud.
Ah non, mais définitivement, ça lui tape sur le cerveau et c'est quelque chose qu'il a du mal à gérer. Pourtant, physiquement, il est plus près que lui physiquement, c'est difficile. Mais la chaleur est quelque chose qu'il a du mal à supporter et il va y avoir des échanges hein, face à Cerundolo. Mais je pense que s'il accepte de jouer à midi, c'est que je pense que son staff et lui-même imaginent qu'il y a quand même une marge de manœuvre face à ce type de joueur, tu vois.
Ce qui est bien, c'est que ici au moins, on ne protège pas les stars. On se souvient tous qu'en Open d'Australie, Roger Federer jouait tous ses matchs en night session, même des matchs qui n'étaient pas des affiches sympas. Moi, je me souviens d'une année où il devait jouer le frère de Sacha Zverev, Misha. Oui. Et dans la même partie de tableau, il y avait un Wawrinka Tsonga. On était convaincus que les Australiens mettraient Wawrinka Tsonga en night session. Eh bien non, ils avaient mis Federer contre Zverev alors qu'il faisait 40 degrés ce jour-là, comme par hasard. Oui. Donc il y avait...
Eh oui, le directeur du tournoi, c'était l'agent de Federer.
Pas l'agent, mais bon...
Tout comme.
On a compris qu'il était ultra protégé. Ici, voilà, vous avez compris, hein, au bout de 4 jours de tournoi, on a compris, chaque star jouera sa night session et donc il va falloir s'y coller un jour sur deux, peut-être, pour jouer les matchs sous le cagnard. Eh bien, tant mieux, au moins, il y a une équité, c'est fair, comme diraient les Anglais. Sarah, on était évidemment curieux de connaître la programmation de nos petits Français qui joueront demain au deuxième tour dans le haut de tableau. Night session pour Arthur Hinderknecht, logique contre Berrettini.
Très bien, c'est une belle bagarre et c'est un très beau match de night session, une belle affiche.
Et Moïse Kouamé, donc, oui. Je le sentais. Oui. Ils l'ont programmé dès 11h sur le Suzanne Lenglen. Donc terminé le match sur les serres d'Auteuil, là on passe quand même la vitesse supérieure. Mais bon, vous avez vu sûrement la une de l'équipe. Un vent de fraîcheur, je pense que la Fédé voulait l'exposer.
Oui, et puis c'est bien, il a le tennis pour, il est programmé pour, lui il attend que ça. La manière dont il a géré son match sur le Simone Mathieu, comment il a su jouer avec le public au bon moment, je n'ai aucun doute sur le fait qu'il puisse avoir les épaules de faire le spectacle sur le Suzanne Lenglen. Et puis on monte crescendo, voilà, et parce que c'est un joueur que... Peut-être on verra au troisième tour, mais qu'on verra dans les années futures. Donc il faut qu'il joue sur tous les grands courts et commencer le Simone Mathieu, puis le Suzanne Lenglen. Et pourquoi pas, s'il gagne, on le retrouvera peut-être sur le Philippe Châtrier.
Alors attention, hein, n'allez pas croire que parce qu'il a battu Chiich, que ça va être finger in the nose, comme on dit. Non, non, on s'est renseigné sur le Paraguayen Valero. C'est un excellent terrien, c'est un mec qui joue quasiment tout le temps sur terre battue. Donc là, je pense qu'il y aura une baston physique et on va voir si à 17 ans, il a les cannes, s'il a le mental aussi pour tenir sous une température caniculaire. Non, non, moi, j'ai très hâte de voir ce match. Et les deux autres Français programmés, Hugo Gaston, donc, qui a mis fin à la carrière ici à Paris de Gaël Monfils, jouera sur le Simone Mathieu contre le plus fort des Cerundolo, Francisco. En revanche, Luca Van Aché, il n'a pas été servi. Ils l'ont mis sur le 7 contre Nakashima. Mais je pense que ça allait convenir à Luca. Un petit cours, une petite cuvette. On est juste, d'ailleurs, on enregistre juste à côté du cours 7. Et il y a toujours une ambiance fabuleuse. Et en plus, ce sera en fin de journée. Donc, c'est idéal pour que la mayonnaise prenne.
Oui, et puis on fera notre podcast demain soir en espérant qu'on ait des bonnes nouvelles du côté français et française. Allez, un 75%. On essaye 75%.
Ouh là, c'est très ambitieux comme pourcentage.
On peut avoir une Française sur deux et on peut avoir deux Français sur... 50%. Oui, je me suis un peu emballée. 50%.
Écoutez...
Moi, je vise le 50% demain.
Sarah a pris des risques, mais je sens un peu d'euphorie chez elle parce que, vous le savez, elle est mariée au coach de Quentin Alice. Donc, ce soir, c'est champagne.
Oui, donc j'ai perdu mon objectivité. C'est ça, oui, j'ai bien compris. Oui, bah là, j'ai envie d'être franco-française et de soutenir le clan français. Donc, je confirme, 50% demain soir, on en reparle.
Et bien voilà, c'était donc le mot de la fin de Sarah. On se retrouve évidemment demain pour débriefer cette journée qui s'annonce passionnante parce que... On le sent avec cette chaleur, il se passe énormément de choses, on guette les défaillances, on a vu, je vous rappelle, le pauvre Jakub Mentić être évacué sur une chaise roulante, et ça ce sont des choses qu'on n'aime pas voir, mais ça fait partie de la beauté de Roland, ce sont des gladiateurs, il faut aller au bout de l'effort, et Mentić était très, très courageux parce que gagner 13-11 au Super Tarmac alors que tu crampes de partout, ouais, chapeau, non. Et je suis malheureux pour Navoné, l'Argentin, qui aurait tout autant mérité de décrocher le billet pour le troisième tour, mais il fallait un vainqueur, et c'est donc Mentić qu'on retrouvera au prochain tour, mais j'ai peur pour lui que ça s'arrête, parce que jouer un demi-nord frais comme un gardon, là ça va pas être simple. Allez, ciao, à demain.
Ciao.